le pétrole. Le pétrole, je trouve que c'est un sujet très triste là que vous me donnez. Quand je vois qu'on veut aller chercher du pétrole au pôle Nord, ou, ça m'afflige, ça m'attriste, ça m'atterre.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots-clés. Et aujourd'hui, on va zoomer sur celui dont tout le monde parle. Il est partout, personne ne peut vivre sans lui, il est au cœur de notre quotidien. Non pas Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, désormais présent aussi dans la matinale d'Inter et dont vous entendez parler presque autant que Moziman, mais le pétrole.
Oula. C'est bien, c'est récent.
C'est récent, oui.
Chantal Goya, qui a toujours eu un flair géopolitique inouï, avait raison quand, dès 1979, elle alertait sur les dangers du tout pétrole dans son titre véritable manifeste politique, Monsieur Pétrole. Car, on va le voir, le pétrole est partout. Dans nos voitures, dans nos avions, enfin quand je dis nos, ceux que Cyril prend pour se faire des week-ends à Vegas, moi je ne me déplace plus qu'en Ouigo ou en covoiturage. Le pétrole est également dans nos médicaments, dans les jouets en latex de Manon Mariani, dans le kart de Quentin. Bref, il se murmure même qu'en kidnappant le président vénézuélien Nicolas Maduro, Nicolas Trump, c'est un autre membre de la famille qu'on ne connaît pas, Donald Trump ne visait pas seulement à faire chuter une dictature et rendre sa liberté au peuple vénézuélien, parce qu'il adore la liberté, mais qu'il avait aussi comme arrière-pensée de mettre la main sur les réserves pétrolières du pays les plus importantes au monde. Comme disait Manon Mariani dans le supplément géopolitique du Times...
Ça fait peur, hein?
Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, pas autant que la nouvelle boucle d'oreille de Pierre Courade, mais ça fait peur.
Ça fait vraiment peur.
C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de zoomer sur le pétrole, son histoire, son avenir aussi. Pourquoi, à l'heure de la décarbonation, il reste un enjeu si fort et une telle source de tension internationale? Comment se fait-il qu'il reste incontournable pour la fabrication de carburant, alors que Quentin lui a présenté, via sa filiale Lupower, un carburant bio à base de pinot de Nice? Initiative qui avait été saluée par Cyril, qui avait déclaré qu'en faire de l'essence, c'était le seul usage raisonnable qu'il y avait à faire du pinot de Nice. Zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Et bon, oui,
c'est pas cool parce que
c'est pas cool pour qui?
Pour le pinot de Nice, parce que
c'est très bon.
Vous avez des amis.
Moi j'adore ça.
Qui travaillent là-dedans.
Vous aimez ça? Vous avez acquiescé l'autre jour, Mathieu Noël?
Oui, j'ai acquiescé.
Il n'y a que Cyril qui l'a craché.
J'ai acquiescé parce que je suis poli, mon cher Quentin. Vous l'aviez amené chez moi. Bon, bref.
C'est pas bon, quoi.
Oui, non, mais
juste c'est pas bon.
Oui, mais ce n'est pas le débat du jour. Exactement. Oui, c'est ce que j'allais faire, Cyril, si tu ne m'avais pas interrompu.
C'est pas bon.
Je sens qu'on se lâche complètement. Bonjour, Mathieu Ozano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom Zoom cet après-midi. Vous êtes directeur de Shift Project, le think tank qui réfléchit à une société décarbonée, qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant par Jean-Marc Jancovici. Mmh. Vous êtes un ancien journaliste et en 2015, vous avez publié un livre qui fait toujours autorité, Or Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions La Découverte, fruit de plusieurs années de recherche. Le Monde a été sidéré l'autre jour par l'attaque américaine sur le Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro, le tout sans vraiment cacher l'intention première de ce coup de force, mettre la main sur les immenses réserves de pétrole du pays. Zoom avec vous sur le pétrole, je l'évoquais en vous présentant, le pétrole, c'est la principale cause finalement de l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis. Il ne faut pas se voiler la face.
Non, et puis ça a été revendiqué très, très clairement et à de multiples reprises par Donald Trump en personne. Donald Trump, c'est un peu la farce après la tragédie, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'ont fait beaucoup de ses prédécesseurs, les Bush, père et fils notamment, simplement il ne s'en cache pas. Lui, à propos de l'Irak, qui a été envahi en 2003 par les États-Unis, il avait dit « moi, j'aurais pris le pétrole ». J'aurais pris le pétrole. À l'époque, personne ne le prenait au sérieux. Et il assume haut et fort le sale petit secret de polichinelle de la puissance américaine depuis un demi-siècle.
Ah oui, donc vous lui trouvez finalement quelques qualités à Donald Trump. Au moment, il fait frontalement ce que les autres faisaient
dans
le dos.
La vertu d'un clown, d'un clown triste.
Yes, Darren.
Manon, vous êtes allergique à Trump.
Manon ne supporte pas qu'on cite le nom de Trump. Elle est tellement de gauche, si vous voulez, que ça crée une réaction épidermique chez elle, comme ça. Écoutez ce sketch. Yes, Darren. Of course, Darren. I know it's bullshit. I know that petrol is very good. Yes, France Inter is gauchiste radio. What? Communiste radio. Yes, you're right, Darren. But you can count on me. I will defend petrol on this show. Yes, thank you, Darren. Many kisses on your butthole. L'enregistrement de cette conversation entre Cyril
Lacarrière
et Darren Woods, le CEO d'ExxonMobil, que vous aurez reconnu notamment à l'accent, et fera probablement l'objet d'une nouvelle commission d'enquête sur l'audiovisuel public. En attendant, Cyril, racontez-nous le pétrole, d'où ça sort.
Imaginez.
Il est mort de rire.
matière gluante qui pue, qui soigne de la terre et qui tâche tout ce qu'elle touche.
Sans le elle Pinot pourtant, de Nice.
Ouais, aussi. Mais il y a pire que le Pinot de Nice, juste pire.
Ah oui.
Sans cette matière, pourtant, pas de voiture, pas de plastique, pas de vêtements synthétiques, pas d'aspirine même, bref, tout un pan du monde d'aujourd'hui au point mort. Pourtant, avant de devenir l'or noir, le pétrole a longtemps été une malédiction. Si vous en aviez dans votre jardin au début du 19e siècle, votre terrain ne valait rien. Le pétrole, on le connaît depuis toujours pourtant. À Babylone, il servait pour cimenter les briques, en Égypte pour des momies, en Pennsylvanie pour faire des médicaments. On appelait ça l'huile de roche, une sorte de remède de grand-mère contre les rhumatismes.
Ah oui, je viens de comprendre pourquoi dans Astérix, ils appellent ça l'huile de roche.
Mais voilà.
Dans l'Odyssée d'Astérix. Mais quand a lieu le point de bascule pour le pétrole, Cyril ?
Titusville, Pennsylvanie, 1859. À l'époque, pour s'éclairer le soir, le monde entier brûle de l'huile de baleine. Bon, vous imaginez que ça a coûté ce que ça a coûté à la population des baleines de l'époque. Il fallait trouver un remplaçant pour les lampes. Et c'est là qu'entre en scène Edwin Drake, un ancien conducteur de train. Des investisseurs l'envoient en Pennsylvanie pour creuser le sol et dénicher cette fameuse huile de roche en profondeur. On surnomme son chantier la folie de Drake. Pendant des mois, il creuse, ça s'effondre, il n'y a plus d'argent. Et pourtant, le 27 août 1859, à 21 mètres de profondeur seulement, ça bouillonne. Et voilà que le liquide noir jaillit. C'est le début de la ruée vers l'or noir. Alors d'où ça sort le pétrole ? Eh bien d'un gars qui a découvert une des plus grandes richesses de la planète et qui a fini mort, pauvre, oublié de tous. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Mathieu Ozano comprend que l'exploitation du pétrole va vite dépasser le simple usage des lampes pour s'éclairer. À quel moment on a vraiment compris que le pétrole allait tout changer, que ça allait être un tournant civilisationnel, un produit indispensable pour tout le développement industriel qui allait suivre?
Déjà, le fait que ça ait servi de source de lumière, c'était la première source de lumière abondante. En fait, avoir s'éclairer abondamment, c'était réservé aux riches. Ensuite, ça a été un lubrifiant. Il y avait beaucoup de lubrifiants animaux, d'origine animale ou végétale, mais difficile d'en avoir en abondance. Et puis, c'est les industriels et beaucoup les militaires qui ont repéré, en particulier les marins, avant la guerre de 14, qui ont repéré qu'on avait là une source d'énergie, donc de puissance économique, militaire, plus abondante encore que le charbon et plus pratique que le charbon.
Plus pratique.
Plus concentré et c'est vraiment un cadeau. C'est une source de puissance réputée intarissable qui a été offerte par la nature pratiquement gratuitement et très très vite. On se souvient des Rockefeller, de la dynastie Rockefeller. On a toujours ExxonMobil qui est l'héritière de la Standard Oil. C'est la première source de profit, la première source de richesse et même de puissance physique que l'humanité ait jamais mis au jour.
L'heure est venue de découvrir le savoureux pamphlet de Marie Debreur, toujours au plus proche de l'actu, surtout sociale. Marie, vous êtes sur le terrain avec les agriculteurs qui manifestent à Paris.
Oui, Mathieu, hein, je suis depuis 5h du matin avec les agriculteurs, mais en fait, c'est un hasard. À la base, je devais faire un sujet sur le meilleur resto-route, et alors que j'étais sur la 13, aux courtes pailles de l'air de Bosquet, je me suis fait alpaguer par un mec sur son tracteur qui partait pour la manif et on a sympathisé et on a passé une nuit enfin, disons que ce qui se passe aux courtes pailles reste aux courtes pailles, mais faites gaffe quand même hein, si vous allez à la rôtisserie, il se peut que l'aioli ait goût bizarre. Bref, après cette nuit d'amour on a papoté, il était là, mais tu comprends pas Marie, avec le Mercosur c'est la merde, et je comprends sa colère, c'est sûr que le Merco c'est pas une si bonne bagnole. Et voilà, et au petit matin, il m'a trimballé sur sa moissonneuse batteuse jusqu'à Paris. Et pour le coup, ce n'est pas une métaphore. C'est rare que les agriculteurs manifestent dans Paris, donc ils en ont profité pour faire un peu de tourisme, puisqu'ils se sont garés, les tracteurs, ils les ont garés devant la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Porte d'Auteuil. Bon, Porte d'Auteuil, il n'y a pas grand-chose à visiter. Enfin, il y a la piscine Molitor, si les agriculteurs veulent faire un petit plouf, quoi, après la manif. Mais bon, est-ce qu'ils ont pris leur maillot, leur bonnet de bain ? C'est pas sûr. Hein. En plus, 180 balles l'entrée à la pistache. Va falloir en moudre du grain. Va falloir en cultiver de la carotte. Va falloir en traire de la vache. Oui. Bon, vous avez compris, la piscine est chère. Les agriculteurs gagnent mal leur vie et j'y connais rien. En agriculture, pour entrer dans Paris et éviter les contrôles de police, les agriculteurs ont utilisé Waze. Et pour l'occasion, l'application GPS a transformé la voie habituelle par la voie des Baudins. pour, je cite, faire paysan. Mais j'ai trouvé ça scandaleux. C'est scandaleux, mais ça veut dire quoi, une voix un peu paysan? Mais ça serait un peu comme ça, tourner à droite. Non, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais oui,
paysan belge, peut-être.
Oui, je n'arrive pas à le faire, je vous le dis. Mais vous savez, c'est glottophobe, en fait. Et vous connaissez mon combat contre la glottophobie.
Oui.
Je rappelle, le seul accent qui est OK de faire, c'est l'accent allemand, n'est-ce pas, ma petite Ursula von der Leyen? Je ne fais pas de libre-échange. Nein, 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 meine Liebe. Moi, j'ai voulu participer à la manif également. Hein. Je suis pas agricultrice, mais même si je cultive mes blagues sans pesticides. Mais je voulais être. Je voulais être en soutien, voilà. Donc j'ai bloqué une rue avec ma Modus de 2005 couleur champagne. J'ai bloqué. Les bagnoles, elles pouvaient à peine passer. Enfin, voilà. Après, j'ai lancé tranquille les taxis. Bah, ils bossent, les gars. Et bon, en fait, j'étais garée. Voilà. J'ai payé le parkmètre. Je voulais pas dormir. Voilà. Puis debout depuis 5 heures du mat. Il y a un moment, hein, j'en ai eu marre de manifester dans ma Modus. Du coup, j'ai taillé la bavette, quoi, dans un resto. J'ai pris une pièce du boucher venu tout droit d'Argentine. Je me suis régalée. Mais ils savent faire la barbe avec les Argentins. Il y a pas chier, hein. Voilà. À un moment, les agriculteurs ont menacé de tronçonner un arbre par heure à Porte d'Auteuil. Alors ça, non. Voilà. Ils y sont pour rien, les arbres, dans cette histoire de libre-échange. Hidalgo, elle a tweeté d'ailleurs, après qu'ils aient tronçonné un arbre protégé, la colère et le droit de manifester n'autorisent pas un tel acte. La nature a ses droits, nous aimons nos arbres et nous les protégeons. Bon, elle a clairement plus d'empathie pour les arbres que pour les agriculteurs qui crèvent la dalle, mais je suis grave d'ac, en fait. N'abattez pas les arbres, enfin, c'est des êtres vivants. J'ai vu une vidéo d'une meuf qui fait une séance d'ostéo à un arbre. Et elle lui a fait payer 70 balles. Il était dégoûté, le séquoia. Il était là, 70 balles pour se faire masser l'écorce. À ce prix-là, elle aurait pu me secouer la branche. Oh, oh bah ok, bah sortez les tronçonneuses des agriculteurs.
Merci Marie Debreur. À suivre, est-ce que les militants frôlent le burn-out? Quentin vous posera d'ailleurs la question. Et puis les 200 ans du Figaro avec un historien des médias, le temps de s'écouter l'épée Dreams sur Inter.
Je n'y vois pas.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer, disait France Gall. C'est aussi ma philosophie, mais hélas, parfois, à force de donner, on finit cramé. Zoom cet après-midi sur le phénomène du burn-out militant avec vous, Hélène Balazar, chercheuse en sciences politiques et co-autrice de Burn-out militant, comment s'engager sans se cramer, qui est paru aux éditions Payot. Vous dites quelque chose d'intéressant. Il est difficile de séparer le militantisme de sa vie privée. C'est vrai que notre job, on peut bien le dissocier de notre vie privée. Le militantisme, ça fait partie de nous, intrinsèquement. Donc, c'est difficile de voir la frontière.
Oui, bah alors déjà le job, on est pas mal à connaître le fait que c'est quand même aussi difficile, mais elle dû encore plus l'engagement, bénévole quel qu'il soit, et on le fait souvent, bah voilà, sur nos heures perso. Le soir, le week-end, et en fait aussi des fois on s'engage, une bonne raison de s'engager, hein, c'est pour rencontrer des gens, donc on se fait des amis aussi via les associations dans lesquelles on s'engage, et donc on lie amitié et engagement, et donc on a du mal à, en fait c'est un des facteurs, un des risques un peu d'épuisement, c'est qu'on a du mal à vraiment à un moment se poser, se reposer, et en fait le droit à la déconnexion, il devrait aussi exister
pour les bénévoles et les
militants. Bénévoles.
Mais vous dites justement qu'il y a des organisations qui imposent des pauses ou des années sabbatiques pour permettre la décantation et éviter les burn-out, c'est notamment le cas de la Croix-Rouge. C'est le sujet même de son engagement, le contact avec des situations tellement difficiles qui peut provoquer un burn-out si on ne se met pas un temps en retrait. En fait.
Exactement. Alors ça avait été montré aussi dans le cas du burn-out professionnel, justement des travailleurs sociaux, des personnes qui sont en contact avec des personnes en grande précarité, en grande difficulté, victimes de violences. Il y a le traumatisme, ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. On se met à la place des autres et on peut avoir les mêmes symptômes que si on avait vécu soi-même les traumas. Et du coup, voilà, c'est donc pour les bénévoles qui s'engagent, c'est la même dans ce type d'association, c'est le même problème, quoi.
Pardon, est-ce qu'on sait s'il y a plus de cas de burn-out militant justement? Je ne sais pas, pour quelqu'un qui s'engage auprès des migrants à Calais, que sur une activité, une action peut-être moins choquante. Est-ce que c'est plus dans les situations difficiles que les gens ont des burn-out ou
pas forcément, parce qu'en fait, dans les facteurs du burn-out, il y a aussi justement le fonctionnement interne du collectif. Et ça, c'est aussi un gros facteur de burn-out, c'est quand les collectifs dysfonctionnent à l'image un peu de la société. On n'est pas à l'abri de rapports de domination en interne, de mauvaises organisations. Souvent,
oui, c'est
d'ailleurs,
pas le monde des bisounours non plus, les assos.
Voilà, c'est pas le monde des bisounours, et ça, c'est aussi un gros facteur de burn-out.
Comment ça marche le droit à la déconnexion que vous appelez de vos voeux, hein, quand on est engagé sur des sujets qui méritent d'être dérangés à toute heure du jour, comment ça se passe?
Et ben alors ça demande un peu d'anticipation, hein, un peu tout ce qu'on dit là dans le livre, c'est que souvent on s'engage, on se précipite et on a envie d'être là surtout pour la cause avant tout, et en fait pour se donner des règles d'organisation collective qui préservent le collectif et qui préservent les individus, il faut prendre un peu le temps de se poser et donc organiser des rotations notamment, vérifier qu'une personne presque la protéger d'elle-même si, si on voit qu'elle a enchaîné trop de maraudes ou qu'elle est, elle est derrière le téléphone à recevoir des appels de femmes victimes de violences par exemple 5 soirs d'affilée, à un moment voilà, faut imposer des pauses, et donc c'est vraiment avoir conscience de ce risque-là pour l'anticiper avant que ça ne soit trop tard, et donc se fixer des règles. Il n'y a pas le droit du travail, c'est ça qui est problématique, pas le droit du travail pour protéger, mais c'est en fait un peu s'en inspirer.
Et est-ce que, je comprends qu'on arrive dans une asso, on est parfois très jeune, on est un peu un chien fou, on a envie de sauver le monde et de faire le maximum, on compte pas ses heures. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce terme burn-out militant apparaît comme ça dans le débat public, est-ce qu'il y a dans les assos des anciens qui briefent, qui forment un peu les jeunes arrivants pour leur dire attention, pour que ça fonctionne bien, que tu puisses vraiment aider les gens, il faut que tu te préserves toi-même aussi un minimum. Est-ce que ça existe ou c'est pas du tout formalisé?
Eh bien oui, c'est un peu ce qu'on essaye de montrer dans le livre. En fait, on a recueilli plein de témoignages de bonnes pratiques d'associations, de collectifs qui essayent de se saisir de cette question-là et de prévenir les burn-out. Et du coup, il y a maintenant des bases soins qui sont créées. C'est pas forcément les anciens d'ailleurs, c'est aussi des fois les nouveaux, mais plutôt des jeunes militants. Enfin, il y a de tout, hein. C'est pas forcément un apprentissage des anciens militants qui parfois comprennent pas que les jeunes ont envie de se préserver, justement. Enfin, c'est aussi une culture de prendre soin de soi. On comprend mieux que maintenant, pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi.
C'est une devise du célèbre militant Florent Pagny, qu'il ressasse pas mal depuis que le fisc est sur son dos.
Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre.
Vous êtes fan de Florent Pagny, en vrai.
Oui, je suis ma fan.
Vous connaissez bien son répertoire, en tout cas, on le découvrira
je
dans une prochaine émission.
Une grande partie répertoire français.
Tout ça est assez inquiétant. Savoir donner, donner sans reprendre. Des mots qui pourraient vous inspirer, mais non, Quentin. Vous, vous préférez tout garder pour vous. D'où vos soucis avec l'URSSAF et le fait qu'on vous surnomme le pire d'entre nous. Ce qui s'est encore confirmé hier, quand vous avez rappelé quatre fois que Bernard, un gentil monsieur rencontré dans la rue, vacillait comme un vieux clochard bourré. Je le rappelle, alors que son témoignage était très intéressant.
Je n'ai jamais dit ça. Clochard bourré.
En rantaine, vous l'avez
dit. Le mot rantaine.
Ça balance.
Mais j'invite les auditeurs à aller réécouter le complètement la rue, qui est en podcast.
Ah évidemment. Il est en podcast. C'est mieux qu'un podcast.
C'est une nouvelle appli.
Quentin, ce burn-out militant, est-ce que les gens en avaient entendu parler?
Je repose une tasse de café sur le comptoir d'un café parisien qui m'abrite du froid en ce début de mois de janvier compliqué. En sortant, je sors le micro France Inter de ma poche et ce monsieur m'interpelle.
Bah, je me demandais s'il y avait encore des gens qui travaillaient pour France Inter.
Ah, c'était pour me piquer un peu, quoi.
Moi, bien sûr. J'étais beaucoup Europe.
Europe 1 ?
J'écoutais beaucoup Europe 1, j'étais chauffeur routier et puis j'écoutais beaucoup ça.
Je lui explique notre émission, je fais lire aux gens dans la rue le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Le burn-out militant.
Vous n'êtes pas militant, vous ?
Non, je serais plutôt militant socialiste.
Ça existe encore ?
Je suis pas militant, je suis pas inscrit au parti, mais je veux dire, je vote socialiste depuis Mitterrand.
Est-ce qu'on peut parfois trouver du découragement dans le militantisme ?
Ah, bien sûr. J'étais délégué, moi, CGT, délégué du personnel. Ouais. Oui, il y a des moments, il faut avoir la foi, quoi. On se décourage par le manque de résultats, par les difficultés, par l'adversité, quoi.
Pour ce monsieur, c'est aussi une question d'époque, de génération.
J'ai des idées de gauche depuis tout jeune. Et si on lutte pas, la société, c'est triste. Les gens se détournent de la politique parce qu'il n'y a plus d'idéologie, je trouve. Je trouve que c'est ce qui manque par rapport aux années 60, 70.
Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a moins de militants politiques en général. On les recrute parfois pour les campagnes.
Oui. Avant, les gens étaient catégoriquement de gauche.
Ouais. C'est plus volatile comme militantisme.
Oui, les gens vont d'un parti à l'autre, on a l'impression que c'est des vases communicants. Demain, je vote à droite et puis demain, je peux aussi bien avoir des idées de gauche. Pour moi, si on est de gauche, on est de gauche depuis le début et puis on est tout le temps de gauche.
C'est vrai, et qu'il a été syndiqué, délégué du personnel, militant PS, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas un profil qui est si fréquent que ça. J'arrête deux jeunes gens, Mathilde et Étienne, pleins d'envie et d'enthousiasme pour commencer l'année.
Bonjour.
Bonjour.
Le burn-out militant. Peut-être le fait de tellement vouloir s'engager dans son travail qu'on en fait un burn-out.
Ou alors tellement vouloir s'engager en politique ou pour des causes qu'on en fait un burn-out.
Oui, c'est ça. Je leur demande s'ils s'engagent eux-mêmes. Après tout, on est tous un peu militants.
Je crois qu'on se tient un peu éloigné de ça, justement. On soutient toutes ces causes, évidemment. Et moi, ça me fait toujours peur de beaucoup m'investir aussi parce que j'ai peur de me perdre dans du non-résultat ou trop d'énergie dépensée et oublier ma propre existence, des fois au profit de causes qui sont hyper essentielles, mais qu'on ne peut pas battre seul.
Vous n'avez pas essayé avec le féminisme, le climat, de vous engager, vous, personnellement ?
Moi, non, jamais.
Moi, c'est vrai que je suis pas très militant non plus.
Je leur demande si c'est un truc de leur génération. Est-ce qu'on s'engage moins en 2026 ? Est-ce qu'on donne moins de temps pour une cause ou pour les autres, tout simplement ?
Moi, je verrais pas ça comme ça. Je dirais pas qu'on donne moins de temps à l'autre. Je dirais peut-être qu'on donne plus de temps aux gens à qui on a envie d'en donner, nos proches ou les gens vraiment qui sont très proches de nous, mais peut-être moins aux gens qu'on connaît pas. Peut-être, hein, peut-être que c'est quelque chose de notre génération qui fait qu'on a plus envie de se recentrer sur... C'est triste, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre en début de 2026, quoi.
Est-ce qu'une décennie de bouquins et de podcasts sur le développement personnel aurait eu raison de l'engagement et du militantiste énergivore, celui qui fait qu'on s'oublie ? Je réfléchis à ça tout en traînant dans cette galerie commerçante où cet homme joue du piano, mis à disposition pour tout le monde, et c'est un air connu.
Florent Pagny.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Nicolas.
Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis éducateur avec des enfants, je travaille avec des enfants.
Dernière réaction sur le...
Le burn-out militant, moi, ça me fait penser à certaines personnes qui essayent de défendre des causes un peu à corps perdu. J'ai beaucoup d'amis artistes qui défendent des causes comme... les causes par rapport à la féminité, entre guillemets.
Le féminisme ?
Voilà, exactement, le féminisme. Et les causes écologiques, etc. Ces gens-là, ils défendent des causes qui sont belles, qui sont justes, mais ils se mettent à fond dedans et ils font un burn-out à cause de ça, quoi.
Et oui, le fait de se décourager, je pense aux aides humanitaires qui peuvent perdre l'envie en ce moment en voyant l'actualité internationale. On a beau jouer We Are The World.
Exactement, bah ouais, c'est une musique, bah du coup ça fait lien avec ton sujet, parce que du coup bah c'est une musique qui essaye de mettre tout le monde ensemble, quoi, donc c'est ouais. Une belle musique.
On chante We Are The World et en même temps...
Et au final, bah, le monde, il se sépare quand même. Et, ouais, c'est pas beau, non mais c'est clair, je suis totalement d'accord.
De l'ancien délégué militant socialiste qui parle de la lutte à la prudence de ces jeunes, en passant par la lucidité de Nicolas, qui voit bien comment certains s'usent avant même d'avoir été entendus, le burn-out militant raconte peut-être ça, non pas la fin de l'engagement en soi, mais la transmission d'une fatigue, comme si la flamme avait perdu de son éclat en changeant d'époque.
Bonjour Patrick Evenot.
Bonjour.
Historien des médias, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de la presse. Que représente le Figaro dans cette longue histoire? De journal satirique à quotidien conservateur, comment le Figaro a-t-il évolué et traversé deux siècles d'histoire? C'est assez inédit quand même.
C'est assez inédit et c'est un faux anniversaire, il faut le dire tout de suite.
Oh non Patrick.
Ah. Si, le premier titre Figaro est créé le 15 janvier 1826, donc oui, ça va faire 200 ans dans... Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est un Figaro qui passe de main en main pendant une dizaine d'années et qui disparaît et qui met 20 ans à renaître avec Hippolyte de Villemessant, qui est son véritable fondateur en 1854. C'est un hebdomadaire et il le transforme en quotidien en 1866. Donc ça fait déjà 160 ans, c'est exceptionnel dans la presse française. Il n'y a que deux journaux, le Bien Public et le journal Saône-et-Loire, qui sont plus anciens.
Ah, le journal Saône-et-Loire, ben ça, c'est un
Bien Public que je lis quotidiennement.
Vous nous parliez de sa première publication du coup en 1826. Il ressemblait à quoi le Figaro à ce moment-là ?
Le Figaro, c'est deux feuilles à quatre, réunies entre elles, ou un A3 plié en deux. Faut se mettre dans l'esprit de l'époque des années 1820-1830. Les jeunes, c'est la génération Z du 19e siècle, si je puis dire. C'est-à-dire des gens qui... leurs parents ont tout vécu. La Révolution française, l'Empire, les guerres de l'Empire, etc. Villemessant, un fils de colonel, bâtard, comme on disait à l'époque, de colonel. Émile de Girardin, un autre fondateur de presse, est fils de général. Victor Hugo est fils de général. Il est né en 1802, comme les deux fondateurs du Figaro, Maurice Allouis et Étienne Arago, le frère du grand savant François Arago. C'est tous ces gens-là... Alexandre Dumas est né en 1802 et fils de général aussi. Bon, ils ont l'impression, quand ils ont 20 ans, dans les années 1820, que tout est à faire, mais qu'ils ne peuvent plus rien faire par rapport à leurs parents qui ont vécu 25 ans, une tourmente et en même temps, etc., quelque chose d'extraordinaire. Alors, ils se lancent dans quoi? Ils ne peuvent pas faire de politique parce que il se retrouve avec le vieux Louis XVIII, puis avec le Charles X, c'est-à-dire les deux frères de Louis XVI. Vous voyez, ça remonte, on se croirait revenu au temps de Marie-Antoinette.
C'est la Restauration.
Ça marche pas. Donc, ils se lancent dans ce que font les jeunes maintenant. Le podcast, le stand-up, l'influenceur, etc.
Et pour eux, c'est la presse.
Et pour eux, c'est la presse ou le théâtre, ou les deux. C'est-à-dire que...
C'est très culturel dès le départ,
C'est très culturel. C'est dès le départ, c'est sa force et sa grande force pendant toutes ces deux pendant tous ces 200 ans, surtout à partir du 154, c'est la culture.
Pourquoi le Figaro s'appelle le Figaro?
Alors, à cause du mariage de Figaro de Beaumarchais, pièce de 1778, où Figaro dit, dans toute une tirade sur la liberté de la presse, « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ». Ça reste encore le sous-titre du Figaro. Évidemment, c'est la liberté d'expression, et c'est pour ça qu'ils appellent le journal Figaro d'abord, et qu'ils signent les premiers papiers, d'ailleurs, des noms des personnages de la pièce de Beaumarchais. Parce que ils ont peur de la censure, la presse est très contrôlée à l'époque, ils ont peur de la censure, de tout ça. Mais vous voyez, c'est une génération qui se lance à corps perdu là-dedans.
Faisons un bond dans le temps, si j'ose dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, comment se positionne le Figaro pendant l'occupation ?
Ce qui est très intéressant, c'est que le Figaro a une histoire vraiment en dents de scie. L'époque Villemessant, 1854-79, c'est une époque où c'est la croissance permanente. Villemessant, c'est le marketing de presse. Je reviens exprès en arrière parce que je suis désolé, mais c'est important. C'est le gars qui dit qu'il faut faire un crâne numéro tous les jours. Un crâne numéro, c'est-à-dire un numéro fantastique. Et il fait de la pub, et il fait des cocktails, il fait des balles, il fait des... Enfin bon, bref, tout ça pour vendre son journal. Et il invite plein de gens c'est une arène ouverte. Un des premiers numéros, c'est Jules Vallès qui devient communard et qui est donc, on ne peut pas dire qu'il est proche de Zemmour, et qui fait un reportage, il va au fond de la mine pour voir comment travaillent les mineurs à Saint-Etienne, enfin bon, etc. Il y a Émile Zola qui les premiers articles avant Jacques sont
c'était
publiés.
C'était plus Le Monde aujourd'hui, en tout cas.
C'est vraiment, oui, c'est ça, c'est un journal très, très ouvert. Bon, et puis, après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon, il est racheté par un parfumeur milliardaire, François Coty, qui est fasciste, admirateur de Mussolini, qui finance les ligues et qui fait s'écrouler le Figaro. En 10 ans, il passe de 100 000 exemplaires à 10 000 exemplaires. C'est vraiment extraordinaire. Après, il est repris et c'est là où c'est important. J'arrive à la Seconde Guerre mondiale comme ça parce que la femme séparée de François Coty reprend le journal et met Pierre Brisson. Pierre Brisson à la tête de la direction du Figaro de 1934 à 1964, hein, pendant 30 ans. Et Pierre Brisson, c'est un homme, un conservateur, mais il est pour la liberté. Et donc, il a beaucoup de mal avec le régime de Vichy, et il se saborde quand Vichy dit qu'il ne faut pas faire ça, pas faire ci. Il décide d'arrêter le journal parce qu'il ne peut pas subir. Il publie même des textes de Paul Éluard, communiste connu, hein, des poèmes, hein, bien sûr, dans le Figaro littéraire. Ce qui prouve que, vraiment, il a une volonté de liberté.
Merci Patrick Evenot d'être venu nous éclairer sur le quotidien conservateur, le Figaro. Dans un instant, un Zoom Zoom Test consacré au militantisme. On parlera méritocratie également avec Marwan Mohamed. Manon Mariani vous livrera sa fameuse veille sanitaire. Juste après, une petite pause musicale. Voici Kendrick Lamar, Peekaboo.
Aïe. What? Look. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Aye. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none. Pickable, I just put them bookers in my chain. Pickable, 80 pointers like a Kobe game. Pickable, 7.62s, I'll make them plank. Pickable, popping out, you better smell my name. Pickable, put two foreigns on a 405. Pickable, catchy pepper, here from doing pasta. Pickable, why you acting tough on IG Live? Pickable, you know my little niggas off they rocker. Pickable,
surprise bitch, it's that nigga chicken cheese. Pickable, let me FaceTime my op, bitch, I'm up the street. Pickable, yes, AGs, I'm putting something to sleep. Pickable, he on the ground, I praise God and start stumping feet. Pickable, I put 10 on his face, bitch, my shooter plan.
Pickable,
I hit it from the back, I told her move her hands.
Pickable,
then slide my thumb in where her at.
Pickable,
on your top, I'm with that bitch, don't look back.
What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. What they talking about? They ain't talking about none. Huh? They ain't talking about none.
Hey, that's my bitch. Hey, that's my bitch. Hey, with all that fake shit. Hey, ain't the one to play with. Hey.
Pull off in a lamb, double pocket all that tams. Mister, get off on your mans. If he hate you, disrespect, you better follow up with hands. Losses to the neck, but now I'm trophied up, I'm saying like
bing, bop, boom, 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 bop, bam.
The type of shit I'm on, you wouldn't understand. The type of skits I'm on, you wouldn't understand. Big dog business, I would not hold your hand.
Broke bitch business, I cannot be your man. Never got his ass whooped until he opened up that can. Damn, alley hoop me bands, I'ma slam. Jam freak bitch, I like my Mac touching yams. Pay that op shit around me, I'ma tell you turn it off. Heard what happened to your mans, not sorry for your loss. Should've prayed before them shooters came and nailed him to the cross. I let your boy get a pass, bitch, you lucky you saw. For real.
What they talking about?
They talking about nothing.
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 Huh? They ain't talking about nothing.
Aye.
What they talking about?
They talking about nothing.
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 Huh? They ain't talking about nothing.
Pickable.
Zoom zoom zen. Les meilleurs moments. Sur France Inter.
Le militantisme, c'est l'ADN des membres de Zoom Zoom Zen. Je pense à Quentin, qui au début des années 2010 a manifesté devant la mairie d'Alençon pour réclamer le remplacement de l'école primaire par un karting indoor. Je pense à Manon, qui une fois en classe de 4e, a écouté le titre « Talking about a revolution » de Tracy Chapman. Je pense évidemment à Cyril, qui en 1981, fermement opposé à l'arrivée des chars soviétiques à Saint-Germain-des-Prés, collait des affiches dans Paris en chantant
il est génial ce titre.
Jouons. Eh oui, mais évidemment, c'est Cyril qui l'a composé
Jacques
lui-même.
Chirac.
Jouons au Zoom Zoom Test à la découverte des plus beaux hymnes militants. Par amitié pour Manon, j'aurais aimé démarrer ce blind test en vous faisant écouter un extrait de Caresse du désir, son EP iconique.
Oui.
Mais personne, ni francophone ni anglophone, n'ayant jamais compris un traître mot des paroles de cette chanson, Manon semble chanter à travers un tube cartonné de sopalin vide.
Tu demanderas à mon père.
Je lui demanderai à l'occasion. Elle ne fera donc pas partie de notre Zoom Zoom Blind Test spécial texte engagé. Un quiz plus complexe qu'il n'y paraît, puisque je ne vais pas vous faire écouter des chansons directement. Je vais vous déclamer des paroles, à vous de retrouver le titre et l'artiste. Oh, un point pour le titre, un point pour l'artiste.
C'est super dur.
Attaquons tout de suite avec ses premiers vers. C'est le marteau du courage. C'est la cloche de la liberté.
Mais ça peut être des paroles françaises, traduites.
Non,
là c'est français.
Mais okay. La chanson, c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs.
Ah, oh, ce sera le bonheur.
Oh, pour moi, c'est le bonheur.
Rien
c'est ça,
changé.
Le vrai bonheur.
Rien n'a changé, les poppies.
Fort.
Les poppies.
Non,
Quentin,
c'est...
Vous...
Jean-Jacques Goldman, non.
Oh mon Dieu.
Mais non, mais c'est ça. Dieu. Non, rien n'a changé.
Claire, il est temps d'intervenir.
Les poppies.
Oh.
Ah non, c'est Claude François.
Le de mon cœur.
Ah non, c'est Claude François.
C'est Claude François, mais c'est surtout trop tard. Alors non, je vois l'affliction dans vos yeux. Je ne suis pas un culte au point de penser que Si j'avais un marteau, version Clo-Clo est un hymne militant. Mais voilà, en fait, il s'agit d'une adaptation de The Hammer Song, écrite en 49 par Pete Seeger et Lee Hayes, deux musiciens folk activistes de gauche, en soutien aux communistes américains victimes de la chasse aux sorcières du McCarthyisme. Et ça, vous ne le saviez pas.
Clo-Clo ne le savait pas non plus.
Ça vous embouche un coin. It shocks you a corner, comme on dit. Mais attention, ne vous laissez pas déconcentrer par mon bilinguisme. Voici un deuxième titre engagé. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux.
Ah, les trois cafés gourmands.
Ils exportent.
C'est pas ça, non.
Ils exportent le sang
Michel
de la
Sardou.
Terre un peu partout à l'étranger, leur pinard et leur camembert.
Mais c'est ça,
c'est leur soie glace, cet arrêt.
Renault.
Oui, on est passé de trois cafés gourmands à Renault.
Renault.
Je devrais. Quelle chanson Hexagone a les bonnes réponses de Quentin. Hexagone de Renault en 75.
C'est pas ce qu'on fait,
ne chantez pas sur, ne chantez pas sur Renaud.
Sur son trône.
Vous voyez, ça vous donnera pas de points supplémentaires si vous chantez, Quentin.
J'ai envie.
Voir, ça peut enlever, mais...
Ça... vous en avez deux en moi,
oui.
Donc je serai vous.
Renaud était alors au sommet de sa forme. Quentin, un point bonus si vous n'imitez pas Renaud.
Ah bah.
Un point bonus, merci, je vous octroie ce point. Comment, Manon? C'est injuste.
Mais il a chanté juste avant.
Non, mais sans limiter.
Sans limiter.
Avec ma vraie voix.
Manon, vous savez, de toute façon, la vie est injuste. Comme le redécouvre chaque jour Mathieu Vidard dans son émission La Terre au Carré. Mathieu Vidard, dont le titre suivant est dans ses top écoutes de 2025. Écoutez plutôt.
Titanic.
Je vous accorde deux points pour cette excellente vanne.
Pas deux.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène.
L'hymne de nos campagnes.
Mérite-t-il des coups de
Trio
hache? C'est une bonne réponse, de Quentin. Je suis désolé, Manon. Vous l'aviez sur le bout de la langue, mais Quentin l'a expulsé de sa bouche.
Ça. Okay.
L'hymne de nos campagnes. Trio, un groupe éminemment clivant qui a fait danser Camille Lorente et vomir Manon Mariani. Mais nous n'en avons pas fini avec Babylone. Jetons le pavé de la révolte. Écoutez bien. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit flanqué sous l'étagère. Oh, ça va trop vite, Quentin, vous êtes trop fort.
Mais c'est trop fort.
Tout ce qui est bon, il compte pour moi. Je préfère que ça parte à l'abbé Pierre, voilà, écrivait-il avant l'affaire, j'imagine, hein, sacré Florent. Ma liberté de penser, évidemment, personne ne lui a jamais prise à Florent. Florent Pagny dans le style full piton.
Non, mais il n'y a que vous pour trouver ça en
c'est
une
vrai,
seconde.
C'est vrai,
vraiment.
C'est vrai.
Vous êtes un problème. Je vais vous dire, vous êtes inquiétant.
Je suis hyper amnésique.
Florent Pagny.
Ça sert à rien.
Florent, ah, si, ça vous sert là, regardez.
Oui, voilà, oui.
Comment ça sert à rien? Vous voulez dire que gagner dans le quiz
non,
ne sert à rien?
Dans la vie en général. Mais là, ça me permet de briller un peu.
Rien pour ça, bon. Oh. On dira rien.
Florent Pagny, dans le style full piton et bottes en plume de pan, n'auront pas laissé insensible notre Pierre Courade qui va bientôt se faire percer l'oreille en hommage à monsieur Florent.
Et bientôt les dreads.
Mais oh, la totale. Mais je vous sens trop bouleversé pour continuer. Alors terminons avec un blind test express spécial protest song à la flûte de pan.
Imagine, John Lennon.
Imagine de John Lennon, qui dans ce titre rêvait d'un monde sans frontières, sans pays, sans religion, sans possession, mais n'aurait jamais osé espérer être repris à la flûte de Pan par les deux frères équatoriens de Wakwikwa. J'ai trouvé ça sur YouTube.
C'est bien cité, mais raison.
Et celui-là, vous l'avez celui-là?
Queen?
Vous avez, moi j'avais un t-shirt de...
Pink Floyd?
Je sais pas, je cherche. Scorpion.
Ah ouais.
Winds of Change. Le vent du changement.
me regardez pas comme ça, j'ai pas reconnu.
Scorpions, vous étiez trop petit peut-être.
Scorpions ?
Oui, Scorpions, quoi.
Avec Gorillaz, certainement.
Gorillaz, oui, vous avez réussi à dire une fois correctement.
C'est, je l'ai dit là.
On ne dit pas Scorpion, vous êtes au courant.
Je crois qu'on dit Scorpion.
Non.
Mais comment, Scorpion ?
En France, on dit Scorpion.
Non, mais ok, mais.
C'est un groupe français, peut-être. Là, je parle au rédacteur en chef de cette émission en régie qui ose me souffler des inepties.
On dit pas U2, donc voilà.
U2.
Vous savez ce que me dit Cyril en régie ? C'est honteux.
Allez-y.
C'est un groupe de Bosch. Alors on dit ce qu'on veut. Voilà ce qu'il nous dit.
Non,
voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit.
Non, mais ça, on
et, voilà. Et après on repensera la poignée de main Helmut Kohl, François Mitterrand. Quelle honte, quelle indignité sur le service public en 2026.
C'est pas possible.
Mon Dieu. Victoire de qui?
Bah, de
victoire de Quentin. 8 à moins 2.
Ah
mon Dieu.
Merci.
8-0.
Marwan Mohamed est avec nous pour son livre « C'était pas gagné, de l'échec scolaire au CNRS, histoire d'une remontada qui sort au seuil ». Et c'est entre guillemets le « C'était pas gagné ». Qui vous dit « C'était pas gagné » Marwan ?
Ma mère. Parce que j'ai entendu cette phrase très souvent dans sa bouche. Ouais.
Elle vous a attristé cette phrase ou au contraire ?
Non, aujourd'hui elle m'attriste pas. Aujourd'hui, elle me fait, ça me fait plaisir quand elle le dit. Par contre, quand j'ai ramené le bulletin...
Oui, avec un 3 en mathématiques, hein, ouais. Marwan.
Ouais,
j'ai bulletin pas... qui est sur la couverture.
Sur la couverture.
Le bulletin qui est sur la couverture, c'est mon bulletin de 3e, hein, de 3e trimestre, de 3e. Quand je ramenais ça, s'arrachait la peau, elle devenait rouge, elle s'énervait, elle déprimait. D'autant qu'elle, pour le coup, elle a dû arrêter. L'école, c'est une très bonne élève, elle a dû arrêter pour aider ses parents au Maroc, etc. Donc pour des raisons économiques. Du coup, quand elle vient en France, elle vient avec cette volonté que ses enfants... c'est pas répare, mais au moins qu'ils puissent avoir les moyens d'avancer sans devoir arrêter.
Ouais. C'est une sorte de revanche, entre guillemets ?
Non, je suis pas du tout animé par l'esprit de revanche.
Comment bien s'entourer quand on est en échec scolaire ?
Déjà, il y a une partie de l'entourage qu'on choisit pas. Notamment l'entourage familial ou même l'entourage du quartier, des enseignants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déterminées entre l'entourage, mais notamment au niveau de la famille. Moi, j'ai une famille remarquable, en fait. J'ai une famille remarquable, j'ai une mère remarquable, j'ai des gens qui sont en soutien, qui sont vraiment, qui ont toujours été derrière moi. Et du coup, ça aide quand même beaucoup. Et en plus, je me suis marié avec quelqu'un de remarquable depuis plus de 20 ans. Et vraiment, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et au sein du quartier, en fait, j'ai pas fréquenté toujours les mêmes personnes selon mon état, et j'ai eu une période de torpeur où mes fréquentations, elles n'étaient pas extraordinaires, mais ça restait des amis. Puis ensuite, j'ai su m'entourer, et notamment quand je commence mon parcours scolaire, je comprends très vite, et on m'explique très vite que pour réussir, on ne peut pas réussir tout seul, et que là, pour le coup, il faut s'entourer de gens qui sont dans la même dynamique.
Comment vous êtes tombé dans la sociologie ? Vous dites que c'est avec l'animation socioculturelle et le diplôme du BAFA que vous enclenchez votre raccrochage social.
Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai 16 ans et demi, j'ai raté mon brevet des collèges et ensuite j'ai raté mon BEP. Donc je sors du lycée, bon, on me met à la porte, j'ai 17 ans et en fait la question c'est qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et comme gamin qui traîne pas mal au quartier, je traîne beaucoup à la maison de quartier, ils ont un partenariat avec l'association qui gérait les centres de loisirs, ce que je ne sais pas, et ils me proposent de passer le BAFA, mais ils m'aident aussi à trouver les financements. Et c'est important le BAFA, hein, parce que devenir animateur c'est... l'obligation de devenir exemplaire à l'égard des gamins, des parents, de l'employeur, ça change notre position. On rencontre plein de gens, on s'ouvre à d'autres animateurs qui viennent d'autres milieux sociaux, d'autres quartiers. On travaille avec des enfants d'autres milieux sociaux. Donc, c'est un tournant dans ma trajectoire. Et il y a une animatrice qui s'appelle Hayat qui vient me voir et qui me dit « Moi, je ne vais plus pouvoir faire les soirées, le périscolaire, etc. parce que je vais passer mon DAEU, etc. » C'est là que je découvre le DAEU, c'est l'équivalence de bac. Et donc, c'est elle qui me met la graine et qui m'amène à m'inscrire. Et au moment où je commence à apprendre à devenir étudiant, parce que j'étais nul, je bossais pas, une étudiante avec qui je travaille, qui est animatrice, Alice, me prête La misère du monde, de Pierre Bourdieu. Et c'est là que je découvre la sociologie, et c'est à partir de là que je choisis d'étudier la sociologie, si je réussis mon DAE, hein, c'était pas gagné.
La réussite, pour beaucoup de jeunes des cités, ça passe encore par, en tout cas en termes de rêve, par le sport. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est quelque chose qui limite finalement, qui ferme leur horizon sur d'autres possibilités ?
Je pense que vraiment, on a quelque chose d'assez biaisé. Moi, j'ai rien lu en fait sur comment les jeunes de quartier populaire ou ailleurs, comment ils définissent et comment ils se représentent la réussite. Le sport est un support de respectabilité.
Oui.
qui permet d'être quelqu'un à travers l'activité sportive, culturelle ou autre. Et ça, c'est pas négligeable comme phénomène un peu compensatoire et pour l'équilibre de ces territoires-là. Mais je dirais pas jusqu'à dire que c'est l'aspiration de tout le monde. Je veux dire, le nombre de jeunes qui vont percer et être sportifs de haut niveau et bien en vivre, il est extrêmement, extrêmement limité.
L'heure de la veille sanitaire, Manon, aujourd'hui, vous nous faites découvrir la star du streaming américain.
Oui, il s'appelle Aisho Speed, il a 20 ans, 48 millions d'abonnés sur YouTube, 3 millions sur Twitch, et c'est absolument la sensation du moment. Alors, à la base, le streamer s'est fait connaître, comme beaucoup, pour ses lives consacrés aux jeux vidéo, mais l'année dernière, il a pris un virage qui lui a fait gagner énormément d'abonnés sur ses plateformes, les voyages. Il a commencé par l'Amérique du Sud, au Pérou, il a carrément été accueilli par le maire de Lima, qui lui a symboliquement laissé sa place pendant une heure, puis il est parti en Chine, en Mongolie et à Hong Kong. Cet été, il a aussi fait un tour des États-Unis et des pays baltes qui auraient dépensé plus de 30 000 euros chacun pour l'accueillir. C'est simple, le magazine Rolling Stone l'a nommé le créateur le plus influent de l'année. Et il ne compte pas s'arrêter là. Le 29 décembre, il a entamé un nouveau voyage, direction cette fois-ci l'Afrique, le Speed Does Africa. 20 pays en 28 jours. Il a déjà été en Éthiopie, en Angola, en Afrique du Sud, au Mozambique, au Botswana, au Zimbabwe, en Zambie et en Eswatini, et puis au Kenya, où il a été accueilli comme le Messie. Des milliers de personnes sont venues voir le streamer dans les rues de Nairobi. Des jeunes hommes en pleurs le prennent dans leurs bras, lui disent merci. Sa tournée en Afrique est un véritable succès.
Qu'est-ce qu'il y fait, Manon ?
Eh bien, il tente de montrer les cultures de chaque pays qu'il visite. Il est par exemple allé voir des Maasai au Kenya, il joue au foot dans la rue avec des gamins du Mozambique, il visite les quartiers de Johannesburg avec des locaux. Et puis, il montre aussi les répercussions de la colonisation. Par exemple, au Botswana, quand il rencontre un diamantaire, il apprend, choqué, qu'il est impossible d'acheter des diamants bruts là-bas, alors que le Botswana est le premier pays producteur de diamants au monde. Mais il est lié par des contrats, ces diamants bruts sont prévendus à des pays riches. Cet extrait est devenu viral sur les réseaux, des milliers de commentaires le remercient de mettre en avant la situation de certains pays africains.
Bon, après, ça reste des passages éclairs dans des pays où la situation est parfois un peu complexe. Maintenant.
Totalement. Alors, je ne dis pas que Aisho Speed est le sauveur du continent africain, mais ce qui plaît, c'est qu'il représente aussi une nouvelle génération de streamers afro-américains qui étaient peu nombreux jusque-là. Lui, c'est un peu l'anti-Mr Beast qui a justement été beaucoup critiqué pour ses attitudes de sauveur blanc qui va aider les plus démunis. Et bien, Aisho Speed, lui, il ne fait pas des vidéos produites avec des budgets énormes quand il fait ses live en Afrique. Sa caméra, elle tourne pendant des heures. Il laisse place à l'improvisation, il laisse des entrepreneurs locaux parler au micro. Et c'est ce joyeux bordel qui plaît. Pendant sa seule journée de live stream au Kenya, il a gagné plus de 360 000 nouveaux abonnés sur YouTube. Et puis, ses vidéos en Afrique ont énormément de répercussions aux États-Unis. Sur TikTok, des centaines d'Américains disent qu'ils découvrent un continent qu'ils ne pensaient pas du tout comme ça.
And this whole time, bro, they made us fucking think Africa was such a poor country, bro, such a place.
Pendant tout ce temps, on nous a fait croire que l'Afrique était juste un continent pauvre, un endroit où il ne fallait pas aller. Speed va totalement à l'encontre de ces clichés. Alors, si le travail de Darren Watkins, de son vrai nom, est louable, il se fait aussi critiquer par certains qui trouvent qu'il profite d'une culture et d'un continent pour faire du clic. C'est vrai que visiter un pays en à peine 24 heures, c'est assez court et assez superficiel. Alors, abattre les clichés, c'est bien, mais comprendre les réalités, c'est une autre histoire.
Merci Manon. La chronique de Yann Marguet, c'est juste après. Lynn, ce que tu fais sur France Inter.
C'est si facile de se laisser de courir.
côté. Torsé déjà, je ne peux plus reculer. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël et toute sa bande.
Dans son pays, la Suisse, les présidents restent un an et cèdent leur place. Autant vous dire qu'un mandat de 14 ans, il n'a jamais vu ça le marguer. Pourtant, je crois que ça ne l'a pas empêché de développer un lien tout particulier avec François Mitterrand. C'est juste, Yann ?
Eh oui, Mathieu, quand j'étais petit, je dois vous avouer que pour moi, François Mitterrand, bien plus qu'un politicien, c'était avant tout une grenouille. Grenouille à laquelle je dois finalement beaucoup, car elle m'a permis de faire mes premiers pas dans le monde du spectacle lorsque, goguenard, du haut de mes 8 ans, je mystifiais famille et amis de mes parents à l'aide de ce qui restera probablement dans les livres d'histoire comme mon grand œuvre, mon imitation de François Mitterrand. Faisais-je, et la foule déructée d'une seule et même voix. Encore, petit âne, encore. Mystifie-nous et de mystifier de plus belle. Appelez-moi Dieu. Recommençais-je comme un hommage à peine caché au pins parlant TF1. Très vite, on annonça ma tournée dans toutes les pièces de la maison, Mathieu. Que ce soit en pyjama, en fido-dido, ou peut-être même dans cette étrange posture que les petits garçons aiment adopter pour des raisons qu'on ignore, à poil avec le zizi coincé entre les cuisses, personne ne résistait au pouvoir magnétique que me conféraient les textes ciselés de Jean Roucas. C'est vous dire, si le grisement du succès m'en avait fait oublier l'essentiel, qui était cet homme à qui je devais tout ? Il faut vous dire, monsieur, que né en 84, je n'avais pas vécu la vague de fraîcheur décrite par les anciens de gauche lors de son élection. Pour moi, en ce temps-là, la gauche, c'était où il y avait la flic-flac, et la droite, Mathieu, c'était où il n'y avait pas la flic-flac. Mon jeune âge m'avait privé de la découverte 3 ans plus tôt du mythique écran en pixel art révélant l'identité du nouveau sauveur des Français. Cette apparition divine qui se dévoilait ligne par ligne de haut en bas, si bien que, comme tous les politiques avaient la même coupe de pas de cheveux à l'époque, on ne savait pas si c'était Giscard, Mitterrand ou même Helmut Kohl avant d'en arriver aux yeux et d'enfin pouvoir crier victoire. Comment alors appréhender le Mitterrand quand on n'a pas vécu sa folle accession au trône ? Pourtant, aussi loin que je me rappelais, François avait toujours été là. Mes premiers pas, il était là. Ma première peine de cœur, quand Farah voulait sortir avec moi, puis après plus une fois que j'avais dit oui, puis après à nouveau, mais c'est moi qui voulais plus, il était là. Même ce jour béni des dieux où j'ai découvert en expérimentant un petit peu avec mes mains que le pipou, c'était pas que pour pipi, il était toujours là. Comment pouvais-je en savoir si peu sur celui qui était dans ma vie une véritable constante ? Little did I know, Mathieu, que personne ne connaissait vraiment François. Même notre invité, Georges-Marc Benamou, c'est pas pour rien qu'il ressort les mêmes bouquins sur Mitterrand tous les 10 ans, mais lui est à court d'infos sur le président secret. Oh, le Mitterrand. Je peux vous dire que s'il était encore là, il serait pas sur Insta, le mec. Hein, il passerait pas sa vie à tweeter, le franc-franc. Personne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Un vrai petit Kinder surprise. Et quand on voit ce qu'est devenu la politique aujourd'hui, on peut légitimement se demander si ça faisait pas du bien. Un peu de silence. Alors pas sur tout, évidemment. Hein, sur la colonisation, il aurait pu en dire davantage, différemment, par exemple. C'est vrai que proposer d'ériger un mémorial dédié à l'œuvre coloniale française en Algérie, à Marseille, c'était pas le plus grand move de gauche qu'on ait connu. Et puis l'affaire Bousquet, voilà, un peu de corruption par-ci, par-mi, un cancer caché, une fille secrète. D'ailleurs, Georges Marc, vous avez déclaré les hommes qui m'ont le plus impressionné dans ma vie sont François Mitterrand, l'abbé Pierre et Daniel Cordier. Alors je connais pas très bien le dernier, mais visiblement, ce qui vous plaît, Georges Marc, c'est quand même des gros baiseurs, hein.
La déclaration a un certain temps concernant la Pierre.
Alors que reste-t-il de Mitterrand 30 ans après sa mort finalement ? Je reprends. Comment que reste-t-il de Mitterrand 30 ans après sa mort finalement ? Eh bien, une envergure politique évidemment, de gauche qui plus est. Je rappelle quand même que son surnom était Dieu et que celui de François Hollande était Flamby. Je crois que ça dit ce que ça dit. Ça, et puis quand même le fait de m'avoir amené au firmament du showbiz, c'est pas rien. Parce que je sais pas si, comme il vous l'a dit, c'était le dernier des grands présidents. mais la dernière grande grenouille de ma vie, ça, ça ne fait aucun doute.
Merci Yann Marguet. À la réalisation de ce florilège, c'était évidemment Alicia Vulot. Nous, on se donne rendez-vous lundi, on parlera du parcours du combattant pour obtenir désormais la nationalité française et du premier anniversaire de l'investiture de Donald Trump. Oui, seulement un an.
Zoom Zen.